Olivier, là, ce soir, nous avons trouvé tout un invité, hein? Tu as amené quelqu'un qui contredit une des choses fondamentales que j'enseigne.
Parce que c'est drôle de voir te fâcher pour rien, Maurice. Aujourd'hui, on reçoit Jenny Ouellette de Bon Boss et attachez-vous, ça va brasser. Il était une fois, Jenny Ouellette de Bon Boss était tannée d'entendre.
Moi, ce que je déteste le plus, c'est gérer les gens. C'est difficile, gérer les gens.
Et elle a décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer que des bons boss, ça se peut. Voici son histoire. Salut les pirates, on est au 51e épisode de Go Pirates et puis on a toute une invitée ce soir, Maurice.
Oui, puis elle sonne pas mal mieux que la voix qui t'essaie d'imiter.
Mais c'est pas elle que j'essaie d'imiter. Bonjour Jenny.
Allô, félicitations pour vos 51 émissions.
Oui, on est déjà vieux, nous. Donc, bienvenue à Cocktail avec des pirates. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Jenny?
Je bois un Bloody Caesar.
Est-il bon?
Oui.
Fort bien. Maurice?
Clairement une femme de goût parce que c'est probablement mon drink favori.
Pour
Bon.
vrai.
Oui.
Avec de la tequila, c'est meilleur.
OK. Non, là, tu viens de me perdre.
Maurice, pourquoi c'est pas ça que tu bois, toi, ce soir? C'est ton drink favori?
Parce que je suis au rhum, qu'il me reste plus de Clamato, puis c'est ça.
Bon, mais moi, je suis encore à la bière aux pommes parce que, ben, il m'en reste. Donc, aujourd'hui, on reçoit Jenny de Bon Boss. Puis, Jenny, écoute, nous, on ne fait pas trop dans le froufrou et la dentelle. On commence, parce qu'on est des pirates, hein? Fait qu'on, tout de suite, walk the plank. Je te donne une minute pour parler de toi, de Bon Boss, puis de pourquoi tu fais ce que tu fais.
Parfait. En fait, je suis la fondatrice de bonboss.ca. L'objectif, quand j'ai lancé l'entreprise, c'était de donner une vitrine à ceux qu'on appelle un bon boss. Souvent, on peut entendre des gens dire hey, « Moi, j'ai vraiment un bon boss » et ça m'a toujours fascinée. Je me dis « Qu'est-ce que ces personnes-là font que d'autres ne font pas? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qui les distingue? » Et je me dis « Ça pourrait être intéressant de les mettre de l'avant. » Et aussi, j'étais tellement tannée d'entendre parler des modèles négatif. Je me suis dit, au Québec, on a tellement des belles entreprises, mais comment est-ce qu'on fait pour les trouver? Où sont-elles? Qui sont les bons boss? Donc, je me suis intéressée à, en fait, ces personnages-là. Et justement, on a créé, ben, j'ai créé l'entreprise et aujourd'hui, on est déjà quatre. Donc, on fait une certification pour les entreprises qui ont des bons boss et une belle équipe parce qu'il n'existe pas de bons boss sans une bonne équipe. Donc, on fait ça, on a des services aussi de formation pour aider les gestionnaires à se développer et aussi on lance des services de diagnostic RH.
C'est très complet, Jenny, ce que vous faites. Mais la question qui tue, toi, t'es-tu une bonne bosse?
Oui, je pense que oui. J'ai pas fait le sondage,
Non.
mais je crois que oui, si je regarde mon équipe, je dirais que définitivement oui.
Suis très content qu'on te reçoive aujourd'hui, Jenny, parce que ça fait un bon moment qu'on se dit vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis,
Oui.
ben, c'est commencé. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que je le sais, je le sens avec toutes les discussions qu'on a eues, toi et moi, on vient un peu de la même place, puis on veut pas mal la même chose pour le monde du travail. Fait que
Ouais.
c'était tout à fait naturel qu'on t'invite. En fait, dans la liste des invités qu'on s'était faites, tu étais pas mal dans les premières qu'on s'était dit. Et le monde a fait que tu es un petit peu dans les 4-5e qu'on enregistre, mais c'est correct. Il faut garder du bon pour tout le temps, n'est-ce pas? J'aimerais ça savoir, parce que je sais, on en a parlé. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui a été le plus difficile d'en créer Bon Boss. Parce que c'est pas si facile que ça de dire je vais mettre les bons boss de l'avant, puis ça va
Non.
bien se passer. T'sais?
Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que Bon Boss, c'est pas ma première entreprise. J'ai lancé ma première entreprise en 2014, à l'âge de 26 ans. Ça a été un lancement simple. Je pensais que lancer une autre entreprise, ça allait être plus facile. J'avais vraiment tout faux, en fait. Ça a été complexe parce que je savais que Bon Boss, ça allait marcher. J'avais c'était plus fort qu'une intuition. Je le savais, je le disais à mes amis. J'ai une idée d'entreprise. Ça s'appelle Bon Boss. Je sais que ça va fonctionner. Je suis allée chercher un associé à cette époque-là pour aider à lancer ça. Donc, quand j'ai lancé, L'entreprise, ça l'a vraiment parti en feu. Donc, on a gagné une mention honorable pour un des plus beaux sites web au monde par Awards. Je me suis vraiment amusée à faire un beau site web en RH qui n'était pas traditionnel et ça l'a payé. La seule chose, c'est que notre modèle d'affaires n'était pas cristallisé. C'était gratuit d'être sur mon site web parce que je voulais jumeler mes deux talents qui étaient le marketing RH, le marketing, je devrais dire, de contenu, également la gestion de ressources humaines, mais à ma façon. Donc, quand on l'a lancé, ça a été vraiment une forte demande. Donc, je n'avais pas prévu ça. Puis, personne ne voulait mes services de marque employeur. Ils voulaient juste être sur mon site. Donc,
c'est ça qui était gratuit.
Ça a été exactement. Donc, j'ai pris mon plan d'affaires, je l'ai jeté. Déjà là, je suis partie à moins 10. Mais ce qui a été plus difficile, c'est que 2 mois après, j'ai eu mon accident de voiture. Donc, je me suis retrouvée à avoir un choc post-traumatique. Et je ne savais pas c'était quoi un choc post-traumatique. Je pensais que c'était juste ce qui arrivait aux soldats quand ils venaient de l'Afghanistan, par exemple. Je ne pensais pas que ça pouvait être suite à un accident de voiture qui était quand même, somme toute, très simple. Pas à gros impact. Et c'était ma 4e commotion cérébrale, mais j'ai été invalide pendant environ 10 mois. Donc, j'ai pu travailler que 15 minutes. Donc, c'est ça qui a été très difficile de lancer une entreprise et d'avoir une moitié de cerveau, de tout perdre. J'étais partie de empathique à apathique. J'étais plus moi-même. Heureusement, mes clients, c'est des bons boss. Donc, ils étaient compréhensibles. Mais au début, j'avais fermé mes yeux pour pouvoir parler comme ça. Okay. Donc, ça a été tout un apprentissage. Donc, de lancer une entreprise avec peut-être 10% de tes capacités, c'est... et dans lequel, justement, la demande, elle est forte, mais pas pour ce que tu avais anticipé. C'est assez complexe, mais ça a été la plus belle chose qui a pu m'arriver, en fait, parce que c'est de là que j'ai appris à être une bonne boss.
C'est rare. Ça tombe... J'allais dire, ça tombe pas du ciel. Tu sais, des fois, ça prend un élément déclencheur.
Effectivement. Je pense que je l'avais à l'intérieur de moi. Je suis quand même celle qui a initié bon boss, puis j'aime les gens, en fait, là, ça... Puis mon entreprise, elle est fondée sur la base de l'amour. Donc, je veux comme pas l'amour romantique, mais je veux qu'on fasse ce qu'on aime. Je veux aider mes employés à faire ce qu'ils aiment aussi. Donc, je veux qu'on réponde un peu plus de positivisme dans le milieu du travail. Mais par contre, quand tu es en accident, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Et c'est ce que je ne faisais pas avant, comme certains entrepreneurs. Je travaillais beaucoup, des longues heures. C'était mes clients avant. Donc, j'avais manqué ce qui était la base, qui était de prendre soin de moi avant. Et cet accident-là a fait en sorte que j'ai pu découvrir c'est quoi l'anxiété de performance, de dire, j'ai le droit de prendre une pause. Et c'est de là que mon univers a changé. J'ai pu justement laisser la place aux autres justement me retirer. Ça a fait en sorte que, c'est devenu l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui grâce à ça.
Ouais, tu avais tous les bons ingrédients. Hein? Tu avais d'abord la bonne mission. Tu sais, quand tu dis que c'est plus que de l'intuition, là, c'est vraiment une mission. Tu savais qu'est-ce que tu avais à faire. C'était rendu trop fort. Puis après, tu as eu un traumatisme qui t'a obligé de focusser sur les bonnes choses. Puis il y a plein de sortes de traumatismes. Moi, j'ai passé le mien avec une presque faillite. Là. Avec une jeune famille, un bébé, puis plus rien. Donc, tu sais, puis il y a plein d'autres gens qui vont passer sur que ce soit une chose ou une autre, hein, un changement de vie constant, complet, ça t'oblige à focusser sur le peu d'énergie que tu as, le mettre à la bonne place, puis soudainement, tout s'aligne, parce que tout le noise, tout le bruit autour, tu ne peux plus t'en occuper.
Effectivement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a tellement de positifs qui peuvent émerger de ça, il y a tellement de gens qui m'ont aidé à m'en sortir. Comme j'ai dit, mes clients, c'était des bons boss, leurs employés. J'ai vraiment une vague d'aide et d'entraide. Ça a été vraiment positif. Et c'est là que j'ai compris aussi tout ce que Brené Brown mentionne, qui est la vulnérabilité. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, justement, la vulnérabilité, ce n'est pas celle que tu contrôles, donc celle que tu décides de dévoiler. Donc, quelqu'un va te dire, moi, ma vulnérabilité, c'est ça. Mais quand tu n'es plus capable de parler, moi, j'ai tout le temps le mot stationnement. Là, je me souviens quand je parlais à quelqu'un, je disais, il est super beau le stationnement, mais je lui ai parlé, par exemple, de d'autres choses. Donc, quand tu es imparfaite et c'est visible à chaque phrase que tu dis, tu es plus que vulnérable. Donc, ça a généré plein de belles choses. Là. Et justement, pourquoi je mentionne, pourquoi c'est positif, c'est que suite à l'arrivée de la pandémie mondiale, pour moi, c'était simple parce que j'avais déjà vécu quelque chose de beaucoup plus pire. Donc, la pandémie, si on me demande est-ce que c'est stressant, oui, c'est stressant, mais sur 10, mon niveau de stress peut être un 3/10, mais quand j'étais dans la portion plus difficile, mais là, on parle de un 8 sur 10. Là. J'avais plus ma tête, là, j'avais plus rien. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est un super, très positif, en fait.
C'est quoi les critères pour être un bon boss? Pas pour toi, là, tu sais, mais les critères pour si on veut être sur ton site et on veut être un bon boss. Comment tu vends ça aux gens?
En fait, on fait un sondage à chaque mois de novembre depuis 2017 auprès des Québécois et Québécoises. On leur demande c'est quoi pour un bon boss. C'est sûr qu'il y a des qualités que j'avais repérées dans la littérature et qu'on demande de valider. Il y a une section commentaires ouverts. Quand on a fait notre premier sondage, on a eu 850 répondants, dont 750 commentaires ouverts. Donc, on a vraiment dû valider ça. J'ai demandé auprès d'un chercheur aussi de juste me dire est-ce que moi, mes méthodes quantitatives remontent à plusieurs années. Est-ce que ça fait du sens, mon interprétation? Donc, c'est pas Jenny qui le décide. Mm-hmm. C'est vraiment, en fait, les Québécois, c'est une chose qui est annuelle. Là, c'est sûr que suite à la pandémie, j'ai vraiment hâte de refaire mon sondage, mais somme tout, un bon boss, là, selon ce que les gens vont dire, c'est quelqu'un qui t'aide à progresser. Donc, avec lui, j'apprends. Je deviens une personne meilleure, soit dans mon poste ou de façon individuelle, en tant que personne. C'est également quelqu'un qui partage sa vision. Ça veut dire qu'il y en a une. Il ne change pas d'idée. Donc ça, c'est on s'en va dans une même direction. Ça a le droit de changer, mais au moins, le focus, il est là. C'est quelqu'un aussi qui m'inspire. Donc, on l'a mis avec une notion de mentorat. Donc, c'est quelqu'un qui il va pas forcer les choses, mais il est inspirant. Soit par son mode de vie ou autre. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut dire que son gestionnaire est inspirant. Puis c'est quelqu'un aussi qui est respectueux et juste. Donc, la notion d'équité interne. Donc, j'ai pas de favoritisme. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Et moi, je peux penser que les gens, justement, j'ose espérer que l'équité salariale à l'intérieur de ça, il faudrait plus le creuser. Et aussi, ben, la dernière chose, je vous dirais que, ben, en fait, c'est quelqu'un qui écoute aussi. Ça, je m'en allais passer, mais c'est super important. Donc, c'est quelqu'un qui m'écoute, il ne fait pas juste m'entendre. Et il est présent. Donc, il n'est pas juste là physiquement. Donc, il est attentif à ce que je mentionne. Et aussi, en fait, ça, c'est le dernier qu'on a rajouté. Ça lui a pris quand même beaucoup de temps avant de le découvrir. C'était quoi? C'est qu'on dit de lui qu'il est bon. Donc, c'est les autres qui vont lui en fait, mentionner que c'est un bon boss. C'est pas lui qui va dire « Ah, moi, je suis un bon boss. » En fait, ils sont pas mal humbles. Ils vont dire... Moi, je sais pas, je suis un bon boss, je fais de mon mieux, je fais des erreurs, OK, mes employés m'ont dit que je suis un bon boss, mon Dieu, ça me touche. Puis après qu'on fait la certification, là, ils sont capables de le dire, mais ils sont pas motivés par l'ego, là.
OK, donc ils sont élus, en quelque sorte. Ils sont élus un bon boss, et les autres choisissent de les déclarer bon boss.
Oui, ils font ça pour leur équipe, ils font pas ça pour leur ego personnel.
Une des choses que nous, on répète souvent, c'est que la première responsabilité d'un leader, c'est de créer d'autres leaders. C'est fait pour se reproduire.
Effectivement. Puis une des questions, en fait, que moi j'ai trouvées, en fait, une question que j'ai, là, je pourrais aller faire un doctorat là-dessus, là, ça me passionne, mais c'est qu'on dit qu'un bon boss, c'est un bon leader. Ça, c'est sûr, la capacité d'influence, c'est important. Mais c'est pas tous les leaders qui sont des bons boss. Je peux penser à Steve Jobs. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi j'ai envie d'aller travailler pour Richard Branson de Virgin et pas. La réputation de Steve Jobs n'a jamais pu monter à celle d'un bon boss. Donc, c'est ça qui est fascinant. Donc, on creuse là-dedans. On a plein d'éléments de réponse aussi. Là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les bons boss de différemment? On commence de différents, excusez-moi, on est en train de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien avec les employés en mode télétravail. Mais c'est tellement un sujet vaste que...
L'empathie puis le support, c'est tellement essentiel pour faire la différence entre quelqu'un qui est uniquement efficace, puis même un grand visionnaire peut être uniquement efficace, puis être quelqu'un qui est inspirant.
Oui. Mmh.
Puis, tu sais, on dit souvent, Maurice, un patron peut être un leader, mais tous les leaders ne sont pas des patrons, puis tous les patrons ne sont pas des leaders. Mais il y a des leaders qui sont partout sur le plancher et qui n'ont pas envie d'avoir une autorité quelconque sur quiconque.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, les gestionnaires qui ne veulent pas être des boss, ceux qui ne veulent pas être des gestionnaires, des chefs d'équipe, puis qui vont pour le bien du groupe, mais ça fait c'est souvent les bons boss, en fait.
Mm-hmm. Oui, ils pensent que c'est autre chose d'être un boss.
C'est pas à propos d'eux autres.
C'est ça.
Une autre chose qu'on répète souvent, c'est pas à propos de toi.
Non.
Jenny, on avait brainstormé un petit peu sur les sujets qu'on voulait discuter, puis tu nous en as sorti un qui est, je pense, plus important que les autres qu'on avait dit. La perception que gérer des employés, c'est difficile. Puis, j'aimerais ça que tu t'étendes un peu plus là-dessus, parce que je veux vraiment savoir d'où ça vient, le fait que entendre ça, ça t'affecte ou ça te fâche ou ça te déplaît.
Il y a plein de raisons, mais je trouve que d'être dans une position de leadership ou de gestionnaire, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège et il faut être conscient du privilège qu'on a. C'est pas juste parce que monétairement, c'est censé être mieux rémunéré qu'un poste de terrain, mais c'est parce que c'est un privilège d'être dans une position comme ça, hiérarchique, même si j'aime pas le mot hiérarchique. Donc, je trouve ça étrange de me dire, moi, j'aime l'humain, mais dans un cadre de travail, c'est comme si on agit différemment les uns les autres. On peut entendre dire, ils sont pas capables de penser par eux-mêmes, c'est comme une garderie, je ferais tout dans mon métier, mais ce que j'aime le moins, c'est gérer les ressources humaines. Puis je me dis, je pense que les gens n'ont pas compris à quel point d'avoir une belle équipe, puis d'avoir les bons outils, en fait, avoir des employés, là, c'est en fait quasiment des collaborateurs plutôt que des employés. Là. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de ma carrière et c'est tellement gratifiant, tu grandis avec eux, mais il faut que tu aies les bons outils. Et quand j'entends, moi, mes employés, là, faire la gestion de ressources humaines, c'est la pire affaire, je me dis, il y a des outils qui leur manquent, il y a quelque chose, il y a une perception qui mérite d'être corrigée. Et justement, l'humain, c'est merveilleux, c'est simplement... Est-ce que tu connais tes employés? Est-ce que tu es capable de rentrer en relation avec eux? Est-ce que ton cadre, tes règles sont claires? C'est sûr que quand tu rentres dans une dynamique peut-être syndiquée, pas syndiquée, contexte, surcharge de travail, ça doit être très difficile de gérer ça. Mais je me dis, il y a quelque chose qu'on passe à côté parce que être en relation avec les autres, ça devrait être un privilège et quelque chose de positif.
Mmh. Ouais, donc, c'est ça que... Ce qu'on voit souvent, nous autres, quand on fait des interventions en entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en gestion et qui n'ont pas été préparés à ça. Donc, tu as la peur qui s'installe, ils réagissent de façon défensive. Puis essentiellement, de blâmer, j'ai juste des enfants comme employés. Écoute, tu as les employés que tu mérites, c'est toi qui les transforme en ce que tu es. Ils vont être un reflet de toi-même.
Effectivement. Moi, en fait... Il y en a qui gèrent les employés comme si c'était des enfants. Ils leur donnent pas le droit de décision, ils leur donnent pas le droit aux essais, aux erreurs, les erreurs sont pas balisées, c'est le règne par la peur, ils sont en train de micromanager, puis je me dis, mon Dieu, c'est pas comme ça, c'est pas facile pour personne, puis c'est même pas productif. Là. J'essaie de réfléchir, de trouver un argument qui pourrait me faire en sorte de justifier de faire du micromanagement, puis ça fait un an que je cherche et je l'ai pas trouvé. Fait que il faut jamais faire du micromanagement.
J'en ai un, moi. Rassurer les stakeholders puis leur fortune.
Wow. Mais micromanagement, c'est un symptôme. C'est un symptôme que tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de faire en tant que gestionnaire. C'est adressable. OK? Souvent, c'est juste de se débarrasser de la peur en partant puis d'être encadré correctement. Tu vas réussir à régler tous ces problèmes-là, puis tu n'auras plus besoin d'avoir à avoir ces mauvaises habitudes-là.
C'est assez simple à expliquer, tu sais, comme une image. Là. Si tu tiens tout le temps ton enfant par la main, il apprendra jamais à marcher tout seul. La première affaire que les mauvais boss, entre guillemets, vont dire, c'est mais je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi. Tu comprends-tu? Et c'est comme une espèce de cercle vicieux. Là. Je le traite en enfant parce qu'il se comporte en enfant, parce que je le traite en enfant, parce qu'il se comporte en enfant. Il faut casser ça à un moment donné, tu sais.
Ouais.
Puis il n'y a pas 100 000 moyens. Il faut que tu essaies de faire confiance à un moment donné. De toute façon, si tu ne fais pas confiance à ton monde, pourquoi t'es embauché?
C'est sûr que les préfets où tu vas faire confiance, si tu n'as pas créé le bon environnement pour, ils vont se planter puis tu vas le regretter. Mais l'idée est de continuer. Je veux dire, l'erreur de ton équipe, c'est ton erreur aussi.
Effectivement. Puis une des choses qu'on a vues dans ce que les bons boss font, c'est qu'ils accordent leur confiance au départ et non au mérite. Et tout
c'est
ça
bon.
Fait une grande différence.
C'est vrai. Le meilleur patron que j'ai jamais eu, il me dit la confiance que je vais avoir envers toi, c'est pas quelque chose que tu vas gagner avec le temps. Je te la donne tout de suite. Ça se peut que tu la brises. mais ça va être... Tu sais, dans ce cas-là, ça aurait été... Mon problème, ça a été mon fait, tu comprends-tu? C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre aurait décidé. Il aurait fallu que je travaille fort pour briser sa confiance, là.
Et c'est ta responsabilité, voilà. Parce qu'il considère que tu es responsable, que tu es intelligent, mais il devait être très exigeant aussi, parce qu'on voit que les bons boss, c'est des gens qui sont exigeants sur des standards de qualité, parfois sur certaines règles, puis c'est correct, parce qu'ils donnent les outils pour le respecter, pour arriver aux objectifs.
On était bien alignés, je pense qu'on était tous les deux très exigeants, mais pas nécessairement par rapport à nos propres employés, par rapport à ce qu'on voulait atteindre en tant qu'entreprise. Mm-hmm. On avait la barre haute, puis on a sauté pas pire haut. C'était quand même cool.
Il y a quelque chose que Maurice a dit. C'est vrai que les gestionnaires ne sont pas tous bien outillés quand ils rentrent en fonction, puis j'ai l'impression que le marché voit, ou du moins certaines organisations voient... un rôle de gestion comme un ajout de tâche à un poste déjà. Donc, je suis, par exemple, programmeur, je deviens chef d'équipe, mais j'ai 2-3 tâches de plus. En fait, c'est pas ça, c'est un métier à part entière et il faut les former, ces gestionnaires-là. Et la raison pour laquelle j'aime pas qu'on parle de mauvais boss, c'est parce que, un, il faut arrêter de leur donner une visibilité. Deux, je pense qu'il y a personne qui se lève le matin et dit « moi, je vais être un mauvais boss ». Je pense qu'on peut générer des mauvais boss. Je pense qu'on les aide pas, on les encadre pas, ils ont pas les bons outils. Mais c'est sûr, bon, il y en a qui ne devraient jamais accéder à un poste de gestion, là, et jamais y rester. Là. Je pense peut-être à un pervers narcissique, mais si on ne tombe pas dans ces extrêmes-là, je pense qu'en fait, quelqu'un pourrait. Tout le monde a le potentiel d'être un bon boss, c'est une question de choix.
Je suis 100% d'accord avec toi. Comme je l'ai dit, je pense avant le début du podcast, dans mon passé, j'ai déjà été un mauvais boss. Puis je sais exactement pourquoi je l'étais. Je vivais mon syndrome de l'imposteur. Je savais que j'avais les bonnes compétences pour le faire. J'avais juste pas la confiance. J'étais dans un milieu que je connaissais pas. Je suis arrivé là avec des employés qui étaient hostiles en partant parce que je remplaçais quelqu'un de populaire. Puis l'entourage autour de moi, les autres organisations avec qui on travaillait, tout le monde a voulu commencer tout de suite à imposer leur... s'imposer. Puis, à cause de ça, ça a complètement miné ma confiance, puis je suis devenu un mauvais boss. Je n'arrivais pas à gérer mes gens comme il faut. Je me suis retrouvé avec une mutinerie sur les bras, puis c'était mérité. Bon, jusqu'à un point, on va dire. Mais c'était suffisamment un mérité. Mais il a fallu, après ça, que j'apprenne qu'est-ce qui s'est passé. Et après avoir quitté cet emploi-là, j'ai ça comme faculté. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme je veux, je vais passer des fois 6 mois, 1 an, à fouiller pour comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas puis comment on peut l'améliorer. Puis j'ai dû aller me chercher de l'aide, puis c'est là qu'on m'a fait comprendre exactement là où j'avais commis mon erreur, puis je suis devenu un mauvais boss. C'est quand j'ai arrêté d'avoir confiance que j'étais capable de faire la job. Puis dans beaucoup de cas, à cause de la pression, tu sais, dans la plupart des organisations, surtout celles qui ont beaucoup de niveaux hiérarchiques, il y a beaucoup de pression, il n'y a souvent pas de droit à l'erreur, puis dès qu'il se passe quelque chose, tu cherches un bouc émissaire. Puis dans la majeure partie du temps, c'est un gestionnaire de relativement bas niveau, genre gestionnaire de projet, puis sa fonction est essentiellement à être blâmé si le projet ne marche pas. Fait que tu dis ça une fois ou deux, puis tu es traumatisé après ça pour le restant de ta carrière.
C'est vraiment dommage ce qui t'est arrivé. Je suis vraiment désolée d'entendre ça, puis malheureusement, je pense que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça. Je pense qu'il y a une question qu'il faut qu'on se pose par rapport au système et aux outils, la formation, le support qu'on donne aux gestionnaires. Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est un bon boss? C'est très, très, très difficile. Il y en a plein qu'on a appelés, qu'on a fait des tests, là, qu'on les a sondés, en fait, les bons boss, quand on leur octroie la certification. Il y avait du 9 sur 10, là, puis c'est quand même difficile d'avoir le 9 sur 10, selon moi. Puis il y a des questions assez difficiles, là. Puis on demande les questions aux employés, puis on leur demande de se surévaluer, bien, s'évaluer aussi, désolé. Et des fois, quand ils ont un 9 sur 10, ils pensaient, eux, qu'ils avaient un 7, là. Donc, c'est difficile parce que les bons boss sont tellement, des fois, exigeants envers eux, puis on veut bien faire, puis il y a une décision que la direction nous a imposé de prendre, coupeur de budget, j'ai dû congédier quelqu'un, il a fait une erreur, c'est pas de sa faute, et je comprends tout ça. Moi, humainement, je ferais d'autres choses que cette situation-là, mais t'as pas le choix de prendre cette décision-là, puis d'aller contre tes valeurs, parfois, ou contre ce que ta propre volonté. Donc, ça fait en sorte que le gestionnaire, il écope beaucoup, et il peut pas toujours savoir, mais c'est quoi sa petite tape dans le dos, c'est quand qu'il y en a, lui?
Oui, c'est vrai, ça.
Oui. Et mon ancien patron, il me disait, celui que j'aimais bien, là, hein, « It's lonely at the top. Il était vraiment content d'avoir quelqu'un dans son bureau pour pouvoir parler de ce qu'il vivait. Parce que tout le monde était directement en dessous de lui avant que j'arrive. Donc là, j'ai pu lui donner du lest un petit peu.
Moi, j'ai travaillé régulièrement avec des niveaux directeurs, VP. Puis tu vois les mêmes problèmes avec ces gens-là. C'est le même genre de crainte qu'ils ont. Puis, ce que j'ai tendance à lui dire, c'est à partir du moment où tu as réussi à amener ton équipe, pour savoir s'ils sont sur la bonne voie, là. Si tu arrives à amener ton équipe au fait qu'ils n'ont plus besoin de toi à part pour quelque chose d'exceptionnel où il faut que tu ailles à la guerre pour eux autres, bien, tu es un bon boss. Tu as réussi à faire ce que tu avais à faire. Tu as réussi à faire ressortir leurs talents, à les outiller pour qu'ils soient en mesure de travailler ensemble. Puis tu as créé des leaders. Tu n'as plus besoin d'avoir à les gérer.
Définitivement. Définitivement. C'est tellement ça parce que tu ne deviens pas essentiel. Mm-hmm. Tu deviens porteur de vision. Tu viens activer des talents. Tu viens rétablir la vision. Puis tu es là pour prendre des décisions difficiles. Puis c'est Luc Bertrand de Accès Location Plus qui a dit, moi, cher à une chose, c'est prendre des décisions difficiles.
Ouais.
Puis être là pour mes employés.
Ouais.
Ça, c'était une chose que j'ai trouvé vraiment difficile. En fait, la plus difficile quand j'étais gestionnaire, c'est d'annoncer des décisions qui n'étaient pas les miennes et avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ouais. Ça, c'est rough. J'en ai déjà parlé, Maurice, en podcast, là. Mm. Puis, tu sais, tu t'es ostiné 5 heures, là, avec le VP. Puis, t'as perdu. OK? Il faut que tu annonces ça à ton équipe. Puis, tu peux pas dire, comme, je n'étais pas d'accord, mais ils ont décidé ça, parce qu'il faut quand même que tu aies une voix commune avec le reste de la direction, au minimum. Puis, Maurice, tu disais, tu sais, il y en a, ils vont comprendre que tu t'es battu. Ils connaissent tes valeurs, puis ils vont bien voir que ça ne fit pas avec ce que tu annonces, tu sais. Mais, c'est quand même pas facile, parce que moi, je suis un gars de valeur. Quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, qui est imposé, j'ai démissionné pour moi. fait que j'ai eu à le faire, puis c'est pas le fun. Mais, tu sais, à un moment donné, tu rationalises, tu comprends, mais c'est ce que je trouve le plus dur, honnêtement. C'est quand t'es là pour influencer, t'es là pour inspirer, mais on le fait pas avec toi. Tu comprends-tu?
Oui. Effectivement.
Tu peux être un bon boss, mais tu peux avoir un mauvais boss en tant que bon boss.
Oui, tu peux être dans la même organisation. Mauvais contexte, tu n'es pas préparé à ça. Donc, c'est possible là, qu'un bon boss devienne un moins bon boss et tout. Là. Donc, c'est fort possible. Là. L'humain, c'est tellement variable. Mais ça me fait penser à ce que tu as dit. Comme moi, quand j'avais, en 2014, avant de lancer ma première entreprise, j'ai quitté le monde des RH, en fait, après 2 restructurations parce que j'étais un instrument d'une culture toxique. Donc, j'étais celle qui avait congédié 30 personnes en un mois. Mais moi, c'est pas pour ça que j'avais été étudiée en gestion de ressources humaines. C'était pour aider les gens à se développer parce que j'aimais les gens et tout. Puis, j'étais celle, parce que j'étais bonne dans le droit, j'étais celle qui, dans l'interprétation des conventions, la rédaction, en fait, là, j'étais celle qui congédiait. Puis, j'avais pas envie de faire ça. Fait que je me dis, moi, je quitte ce domaine-là, parce que je me dis, quelqu'un d'humain est censé faire ça. C'est comme, je peux pas appeler quelqu'un à congédier un vendredi. Mais c'est la direction. Puis je me souviens, après ma 2e restructuration, j'ai perdu 2 fois des emplois en l'espace d'un an, et je suis revenue, avec mon 4%, dans mon auto, avec ma petite boîte, là, avec mes choses, là, en fait. En fait, j'étais dans mon auto, puis j'avais les mains sur le volant, puis je me suis dit, avoir eu un bon boss, ma carrière aurait été différente. Puis j'aurais pas quitté la gestion de ressources humaines. Parce que c'était trop politique pour moi. Puis je me suis dit, à ce moment-là, je pense que ça a été là le moment déclencheur, mais ça a pris 4 ans avant que j'aille l'idée de lancer bon boss, mais je m'étais dit, si je reviens un jour en gestion de ressources humaines, je change le domaine.
OK. Là, Jenny, je vais te renvoyer un miroir. C'est-à-dire, il y a très longtemps, genre plus qu'un an sur LinkedIn, tu as posé une question super importante, puis j'aimerais ça te la poser à toi.
OK.
Puis, je viens de penser à celle-là, là, c'est vraiment live.
Vas-y.
Est-ce que c'est mieux d'être dans une bonne organisation ou est-ce que c'est mieux d'avoir un bon boss? Tu avais posé cette question-là. Pourquoi un bon boss? Pourquoi est-ce que c'est plus important d'avoir un bon boss que d'être dans une bonne organisation?
Les statistiques vont dire que 75% de ton des employés sont stressés en raison de leur gestionnaire. Mais ça, c'est une phrase, c'est une statistique. Mais je vais te parler en termes d'émotion. Je peux être dans l'entreprise la plus formidable, travailler dans les hôtels ou les lieux les plus formidables. Par exemple, comme moi qui étais dans l'hôtellerie. Des lieux là, où que les gens payent pour venir passer leurs vacances, qui ont plein de moments, de beaux souvenirs, puis tu es dans l'atmosphère, là, tout est fait pour que tu sois bien. Mais quand tu rentres le matin, puis tu fais le travail, là, si celui avec qui tu es en relation ne t'estime pas, te stresse, te dévalorise, ta santé mentale, elle est importante. Puis ton désir de t'épanouir. C'est pas juste ça. On a étudié pour plusieurs, on a fait des études, on s'est formé, on arrive sur le marché du travail avec de l'espoir. J'ai investi dans mon savoir, ça, puis j'arrive en entreprise, puis je suis juste un numéro par un gestionnaire qui, des fois, peut-être va faire du harcèlement. Ça ne marche pas.
Je comprends, puis j'aurais le même réflexe que tout le monde. Hein? T'sais, la plupart des gens, ils ne quittent pas une entreprise, ils quittent un gestionnaire. T'sais, souvent, on dit ça. Moi, la réflexion que j'avais eue à l'époque, c'est, mais si le bon boss s'en va, on fait quoi? Fait que, des fois, dans une bonne entreprise, tu peux créer plusieurs bons boss. T'sais? Fait que j'étais un peu plus high level dans ma pensée, mais je voulais savoir pourquoi toi, tu préférais le bon boss. C'est évidemment une sacrée bonne réponse.
Je parle de mon vécu, mais c'est pas de réponse parfaite. Il y en a qui n'ont pas un bon boss, mais ils le voient 15 minutes par jour. Là, donc, ça, c'est correct, mais c'est le niveau de gravité. Est-ce qu'il te pose problème? Est-ce qu'il influence ton travail? Oui ou non? Si c'est tolérer quelqu'un, une personnalité divergente, c'est correct, mais si à tous les jours, là, tu vis du harcèlement.
Parlant d'harcèlement, c'était ça l'autre point que je voulais apporter. Il en sort pas mal dans les nouvelles ces temps-ci, des histoires d'environnement toxique au travail. Il y a comme une nouvelle culture de dénonciation d'environnement de travail toxique qui est en train de se monter. Je suis pas mécontent de ça. Je veux dire, il faut dénoncer ces situations-là. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est que je trouve ça bien qu'on avance, qu'on soit capable de dénoncer. C'est comme si on était arrivé à un point de saturation, puis là, on ne peut plus tolérer ça. Je pense que la justice, elle est là pour fonctionner. Elle n'est pas parfaite, mais je pense que c'est un beau canal. Je dirais ça, en fait. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, puis j'en ai vu du harcèlement et j'en ai subi. Puis, surtout quand on est une jeune femme, je pense que ça peut arriver, puis surtout dans la restauration. C'est comme une culture qui existe comme ça, puis je suis vraiment contente que ça sorte, mais il y en a qui parlaient aussi, là. Moi, je parlais à l'époque, là. Puis, je pense juste que c'était pas pris au sérieux, ou c'était, tu sais, dans la restauration, t'es jeune, peu importe. Mais ce que je tiens à dire, puis je sais que c'est pas... C'est la première fois que je vais le dire publiquement, enregistré. Moi, quand j'étais en gestion de ressources humaines, je travaillais avec une culture différente, avec des gens de cultures différentes. Et il y en avait qui me disaient, moi, je vais jouer aux échecs. Et ils faisaient du harcèlement envers plein, plein, plein de femmes. Assez que l'entreprise préférait payer l'organisation pour que la victime s'en aille et l'harceleur reste. C'est des choses, parce que c'est plus facile, malheureusement, congédier une victime plutôt que congédier l'harceleur, malheureusement. Tu sais, je parle à l'époque, là, ça a dû changer. Mais je sais que ça existe, ça. Puis ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus des moyens de comment est-ce qu'on peut protéger les employés, comment est-ce que c'est difficile parfois de congédier l'harceleur. Puis il y a comme une réflexion qui doit être faite autour de cette thématique-là. Qui doit être aussi, je pense qu'on doit inclure des femmes, des gens de la minorité, des hommes, puis que ce soit une réflexion collective par rapport à ça. Et moi, à l'époque, quand j'ai vécu du harcèlement, en fait, puis je dis ça, puis tu sais, je me suis jamais considérée comme une victime, là. C'est ce que je voulais mentionner, en fait. Puis ma gestionnaire était venue me voir, elle dit, Jenny, je sais que tu subis du harcèlement. Puis je me suis dit, en fait, ma réponse a été très simple, c'est. En fait, on commence à subir du harcèlement au moment où on considère qu'on est une victime. Moi, je suis pas une victime. Je suis capable de lui dire que ça fait pas mon affaire, je suis capable de lui dire non, de lui dire que je ne respecte pas, de le faire sortir de mon bureau. Et elle avait dit, OK, parfait. Mais moi, j'étais capable de sortir de cette dynamique-là. La personne, à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle s'est excusée, elle dit, parce que je l'avais confrontée, mais j'avais un caractère comme ça, jeune. et j'étais capable de gérer ces situations-là. Mais pour quelqu'un qui le vit de façon répétitive et qui n'a pas cette force de caractère-là, qui est selon moi peut-être unique, là, parce que c'était pas... quand j'avais 22 ans, je ne sais même pas comment j'ai fait pour gérer ça. Mais je pense qu'il faut poser des questions sérieuses avec des solutions sérieuses qui ne sont pas peut-être encore trouvées ou faciles, en fait, à cibler. Mais je pense que ça passe par l'individu, par des communications, par des moyens de prévention, par une culture saine, par un gestionnaire qui est bienveillant, par une intolérance aussi face à du manque de respect.
Je suis un petit peu plus vieux que vous deux. Il faut réussir à atteindre un point où on est devenu intolérant à ce manque de respect-là. Quand moi, j'ai commencé à travailler, en fait, le manque de respect, tu disais merci. Parce que la chose qui t'est inculquée depuis que tu étais tout petit, c'était quand tu vas avoir une job, tu es reconnaissant. Parce que si tu n'en as pas, tu meurs de faim. Donc, tu allais commander pour une job. L'employeur te faisait la faveur de t'embaucher. Puis là, tu étais redevable pour tout. Fait que la situation, aussi toxique qu'elle soit, si elle est si toxique que ça, c'est de ta faute. Parce que si tu étais un meilleur employé, si tu étais plus obéissant, là, ça ne t'arriverait pas. C'était tellement, tellement rentré dans la tête de tout le monde que c'est comme ça que ça marche. Puis c'est là que j'ai commencé à entendre de l'éternel, « Ah, mais tu sais, depuis toujours, c'est le même que ça fonctionne, ça ne changera pas. » Les gens finissent, au début, ils peuvent se rebeller un peu, puis finissent par juste être écrasés, puis désabusés, puis dire, « Mais c'est vrai, ça ne peut pas changer parce que c'est comme ça. » Puis c'est rentré dans la bureaucratie de la place où est-ce qu'on est, fait que c'est même plus un humain qui gère ça maintenant. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, tout ça, ça sort, OK? Certains, il y a des milieux qui se retrouvent dans les nouvelles, c'est des milieux que j'ai rencontrés, moi, par le passé, personnellement, OK? Je sais comment est-ce que ça se passait là-bas. Fait que tout ce qui est sorti, il n'y a rien qui me surprend. Ce qui me surprend, c'est que ça sort. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui rentre. Cette nouvelle génération-là a été éduquée différemment. Donc là, les gens vont commencer à parler, puis vont commencer à bouger, puis... l'attitude archaïque que ces entreprises-là avaient. Puis ces jeunes-là, là, ils sont appuyés. Puis ces jeunes-là, en fait, il y a des jeunes qui ont mon âge et qui vont commencer à protester maintenant. Mais la mentalité a changé parce qu'il y avait des gens qui poussaient le bon message, ce qui n'existait pas avant.
Oui, effectivement. Et si je pense aux baby boomers, par exemple, moi, mon père, il me disait, « Jenny, jamais quelqu'un va te manquer de respect. » Puis, « Tolère pas ça. » Donc, ce que ça fait, c'est que les baby-boomers ont, selon moi, engendré on est le produit de leur éducation et c'est merveilleux parce que on s'est fait dire ça, on s'est fait valoriser, encadrer, on arrive dans un milieu de travail et là, on doit tolérer le manque de respect, mais jamais dans ma vie, j'ai dû tolérer le manque de respect et ça ne fonctionnera pas comme ça parce que j'ai pas été éduquée comme ça. C'est là, des fois, qu'il y a des petits clashs et je trouve que c'est intéressant ce que dit Maurice parce que justement, ça n'a pas lieu d'être. C'était à une époque, mais je pense que cette époque-là, ben, en ce moment, est en train de changer. Et c'est très intéressant. Puis, il y a une chose que je me suis toujours posée, une question, en fait, même une perception, je pourrais l'expliquer comme ça. C'est au quotidien, quand je me promène dans la rue, là, les gens ne manquent pas de respect nécessairement. On est bienveillants d'une certaine façon. Okay, là, dans le contexte de la pandémie, c'est peut-être un peu... autre, là, mais en temps normal, jamais une personne va arriver puis va marceler ou on va se manquer de respect comme ça. Je me dis, pourquoi est-ce que dans un cadre, quand je rentre dans un milieu de travail, je vais subir ça? Plutôt que dans la rue, j'ai dit, c'est les mêmes personnes que je pourrais croiser dans la rue dans une soirée, ça va bien aller, mais dans un contexte de travail avec les dynamiques et le système, c'est comme si on change. Et c'est une perception que j'avais, mais...
Il y a une hiérarchie dans le milieu de travail.
C'est ça.
Des fois, c'est peut-être ça le problème.
C'est ton milieu de travail, à cause de la hiérarchie, les gens peuvent se cacher derrière, puis ça fait un peu comme ce que tu vois sur Internet. Hein? À partir du moment où tu es anonyme, tu peux être un aussi grand bâtard qui te tente. Mais une des choses que je pense, un des gros facteurs qui fait que ça change, puis ça va changer de plus en plus, puis de plus en plus vite, c'est qu'il y a des alternatives maintenant. Tu n'as plus le choix entre une mauvaise job ou une autre mauvaise job. Il y a des endroits où c'est bien, où tu veux aller travailler, où tes gestionnaires sont des bons boss, où L'entreprise au complet a comme philosophie que ses employés sont pas une ressource comme un vieux photocopieur, là, mais ce sont des gens, puis c'est ce talent-là qui va amener l'entreprise plus loin. Donc, c'est une de nos missions à nous avec GoPirate de faire connaître ces entreprises-là, parce qu'on veut montrer aux gens que, tu sais, tu as le choix, tu peux aller travailler là aussi.
Ben oui, définitivement, puis c'est tellement un choix payant quand on fait ça. Puis, tu sais, il faut juste... C'est difficile de changer d'emploi, là. C'est difficile, mais le gain peut tellement être positif. C'est incroyable. Mais je trouve ça intéressant, puis ce que je remarque, c'est que les bons boss, moi, pour les générations qui arrivent en dans des postes de gestion, je trouve qu'ils partent avec des bons outils pour être des bons boss. Je trouve qu'ils ont la chance d'avoir été éduqués d'une certaine façon, d'avoir peut-être plus accès à des emplois, donc d'être éduqués. Je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai vraiment espoir dans la prochaine génération.
Est-ce que tu as, on va te donner le mot de la fin, est-ce que tu as un mot pour ces nouveaux gestionnaires-là qui commencent? Là? Un conseil?
Vous ne serez pas parfait. C'est ce qui va vous rendre un bon boss. Tant et aussi longtemps que vous allez prendre la décision d'être bienveillant et de prendre soin des gens, dont vous aussi. Ça part de là être un bon boss.
Merci, Jenny.
Merci beaucoup.
Jenny, si on veut en savoir plus sur Bon Boss, où est-ce qu'on va? Site web, LinkedIn, tout ça?
Bonboss.ca, sur LinkedIn ou sur Facebook.
Parfait. Et est-ce que les gens peuvent connecter directement avec toi?
Oui, définitivement.
Super. Les amis pirates, si vous avez des questions pour Jenny, maintenant, vous savez où aller les poser. Quant à nous, ben, on a toujours notre chaîne YouTube. Hein, Maurice, elle commence à être assez populaire, en fait. Elle commence à avoir du poids. Elle accote en ce moment le podcast audio. Fait que sont on par en ce moment. Fait que c'est un combat à finir. Donc, vous pouvez nous trouver, évidemment, nous écrire sur YouTube et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous inscrire pour avoir les publications qui vont suivre. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous sur Apple, donnez-nous un petit review, ça fait toujours du bien. Et n'hésitez pas à nous écrire Ahoy, A-H-O-Y, à commercial, gopirate.com, pirate avec un Y. Là-dessus, ben, merci beaucoup, Jenny, puis je pense que on va bien s'arranger pour te réinviter, parce que c'était vraiment plaisant, puis c'est des discussions qui viennent du fond du cœur, puis les pirates aiment ça.
Merci à vous deux.
Donc, Maurice, on se voit la semaine prochaine.
C'est bon. Bye-bye les pirates, bye-bye tout le monde, bye-bye Jenny.